Fais-moi une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur, pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Ya bonjour, le me revoilu avec ma chronique « Fais-moi une place » en alsacien « Mormir et Plätzle ». Ravi de partager cette demi-heure avec vous, chers écouteurs, auteur Lévi Kroh, aussi Orleple, von unserem Sender Radio Judaïka 102.9. Und jetzt hoppla geht's los, it mourir, au son d'une guitare d'un virtuose. J'ai en cette fin de matinée un invité qu'à son jeune âge aimait démonter le mécanisme pour regarder ses jouets de l'intérieur. Les comprendre, il jouait avec des morceaux de bois, s'inventait un monde à lui, un rêve d'enfant. Une belle histoire commence toujours avec un rêve d'enfant. Et mon invité surprise, Guy Butterlin, avec un B, Butterlin, est aujourd'hui un artisan d'art. Il faut toujours aller au bout de ses propres rêves, rêveur, être songeur ou songif, un mot que j'ai inventé, cela laisse rêveur. Que demeuriez Guy Butterlin, très heureux de s'asseoir sur le rebord du monde et de se raconter. Comment vas-tu, Guy ?
Très bien. Bonjour, André. Ben, je suis content d'être là, dans cette forêt de micros, moi qui aime la forêt avec les arbres.
C'est voilà. Vraiment une forêt de micros, hein. Tu reconnais.
Oui.
Hein.
Oui.
Il y en a pléthore, il y en a plein partout dans ce studio flamboyant. Alors, parle-moi de cette enfance où tu étais ce géotrouve-tout.
C'est vrai que j'ai toujours aimé m'intéresser à tout ce qui était technique. Donc c'est vrai que je démontais mes jouets pour voir comment c'était fait, pour récupérer les petits moteurs dans les voitures électriques que j'avais. J'ai même récupéré le moteur d'une poupée de ma sœur qui marchait, donc elle était plus contente.
Écoute Guy, on va juste écouter un petit extrait d'un musicien que tu vas écouter, lui aussi démonter ses jouets. Tu peux nous mettre la petite musique, Thomas ?
J'étais un petit garçon, plein de vie et de joie. Un jour que j'étais très gentil, mon père me rapporta un jouet extraordinaire, avec de gros yeux verts. Je l'ai pris dans mes bras, mais quand je l'ai posé par terre, il faisait zip quand il roulait, paf quand il tournait, paf quand il marchait. Je ne sais pas ce que c'était.
T'as fait la même chose, Guy ?
Exactement.
Elle tombe bien, cette petite musiquette, là.
Bah, elle l'a écrite pour moi.
Elle est écrite pour toi, ouais. Tu le connaissais sans doute, Claude-François. Tu as dû lui vendre des guitares, non ?
Ah non, j'ai démarré trop tard.
alors c'est, pourquoi tu voulais comprendre le mécanisme de tes jouets ?
Bah, je pense que c'était en moi, tout simplement. Hein. C'est tout ce qui est technique, ça m'intéressait. Mon grand-père était mécanicien, il a construit commencé à construire un avion qui s'appelait le Poudiciel avant-guerre.
Mais un vrai avion ?
Un vrai avion pour voler, oui.
Avec hélice et tout ?
Oui, oui.
Et moteur ?
Oui.
Waouh !
Voilà. Mon père était mécanicien, ma mère était couturière, donc j'ai aussi appris à coudre. Ouais. Avec ma grand-mère, qui elle était chemisière. Et puis mon grand-père maternel était aussi, il bricolait plein de choses, il avait un atelier. Donc quand j'y allais le mercredi, je passais mon temps
donc
dans
forcément,
l'atelier.
Donc forcément, c'est chimbleut, comme on dit, c'est
oui,
dans le
voilà.
Sens, ça, quoi, tu
et
vois.
Puis,
ouais.
Voilà.
Et alors, à peine haut comme trois pommes, tu sciais la table de la cuisine avec le couteau de pain ? C'est quoi cette histoire ?
Bah oui, apparemment, je faisais mes premiers pas.
Ouais.
Je suis allé dans la cuisine, j'ai pris un couteau qui était tout neuf. Et donc, j'avais 18 mois et j'ai scié le plateau, effectivement, d'un meuble chez mes parents.
Et alors là, tu étais puni sans doute, non ?
Non, ils ont eu tellement peur que je me blesse
qu'ils
ont calmé le jeu et puis voilà.
Ouais.
Mais plus tard, j'ai encore vu les traces que j'avais faites sur le
La table existe toujours ?
Non.
Non, elle existe
non,
plus.
Non, elle n'existe plus.
Bah, tu l'as abîmée, j'imagine.
Mais
tu
le couteau existe toujours. Récemment, je l'ai récupéré.
Ah ouais, tu l'as récupéré, d'accord.
Oui.
Et alors, à l'âge de 10 ans, le Père Noël, qu'est-ce qu'il t'a apporté un jour ?
Alors, une super mallette en bois avec des vrais petits outils dedans. Et comme j'ai toujours été aussi dans une association de montagne, on a un refuge avec l'association dans les Vosges.
Ouais.
Et là
à quel
aussi,
endroit,
il y avait
c'est
un petit atelier. Au lac du Schistrotrides.
Ah, c'est
donc
beau là.
Donc sous le
nec, wow,
la vallée de Master. Hein.
Ah ouais.
Voilà. Donc là aussi, pareil, il y avait un petit atelier. Donc j'allais avec ma mallette, je coupais des bouts de bois. Et comme il y a un lac aussi, je faisais des bateaux, je faisais des petites voitures.
Waouh.
voilà, j'ai toujours aimé ça.
Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette mallette? Il y avait quoi? Des scies? Il y avait quoi?
Ah bah, il y avait une scie, des tournevis, un petit étau, des pinces, enfin tout ce qu'il fallait pour travailler le bois déjà.
Tu l'as toujours cette mallette?
Non. La mallette existe, mais plus sous la forme originelle.
Ah ouais, d'accord, tu l'as transformée. Ouais.
Oui.
Ouais. Alors, tu as vécu à Colmar avec tes parents?
Oui.
Tu as grandi à Colmar? C'est comment, quand on est petit garçon, la ville de Colmar?
Ah, pour moi, c'était chouette parce que moi, j'habitais le quartier Saint-Joseph.
Ah oui.
Et puis, non, c'est bien, j'avais tout à proximité. Donc, la maternelle, la primaire, le collège.
Une enfance heureuse, paradisiaque.
Tout était à proximité. Oui, oui.
Tu étais heureux comme petit garçon.
Et puis, le week-end, je partais en montagne avec mes parents, donc j'étais heureux.
Et c'est là que tu te baladais dans les forêts, tu découvrais les arbres?
Voilà. Je découvrais les arbres. Déjà, je voyais des planches.
Non, tu imaginais que tu avais des planches?
Ah oui, déjà, oui, oui. J'imaginais ce que je pouvais faire quand je voyais un bout de bois tortueux ou
ah ouais,
un morceau qui traînait par terre. Voilà. Donc, très rapidement, j'ai acheté des outils.
T'as acheté des outils. Et c'était un peu ton rêve d'enfant de devenir ébéniste? Ébéniste d'art?
Alors, peut-être pas enfant, mais naturellement, quand en quatrième, au niveau de l'orientation, on m'a demandé ce que je voulais faire. Oui, l'ébénisterie s'est imposée.
T'avais envie de travailler le bois, quoi.
Ah, ça, c'est... Oui, oui.
C'est un métier noble, ça, non, d'être ébéniste?
Oui.
De travailler avec ses mains, d'imaginer un meuble.
C'est super, hein. Ah oui, c'est beau.
C'est ce que tu as fait, en fait. T'es allé vers ce métier-là.
Tout à fait. J'ai fait un apprentissage en ébénisterie.
En ébénisterie.
Chez un patron à Colmar.
Mm-hmm.
Voilà. Et puis ensuite, je suis allé travailler chez un ami, sculpteur sur bois, donc il m'a aussi formé. Ensuite, j'ai dû partir à l'armée. C'est un peu tout coupé parce que le patron, à ce moment-là, il a arrêté.
Ah oui.
Mais après, j'ai toujours poursuivi. Après l'armée, je suis allé à la vallée de Münster, je me suis installé là-bas. J'ai travaillé chez un menuisier, travaillé beaucoup pour l'hôpital Pasteur. Je faisais des placards, des choses comme ça,
oui,
des fenêtres.
Okay. Ouais, ouais.
Ensuite, je me suis marié à Breitenbach. Et c'est là que je suis venu dans la région où j'habite maintenant. Hein.
En Alsace?
En Alsace.
Non, je veux dire dans le Bas-Rhin. T'es venu dans le Bas-Rhin.
Je suis venu dans le Bas-Rhin, voilà.
T'as eu un passeport? Je t'aime, filtre le passeport, ils t'ont mis un tampon.
Ah, quand passé... certains me l'ont fait sentir.
Quand t'es passé
j'étais
frontière.
En Henri Noir. Hein.
et alors, c'est comment quand tu touches le bois, toi qui travailles avec le bois? Qu'est-ce que tu ressens quand tu le touches? Et ça a une odeur, le bois?
Ah oui. Et chaque bois a une odeur différente. Donc, il y a des bois dont l'odeur est...
Mais tu parles de quoi? Par exemple, d'un chêne, d'un châtaignier, d'un merisier, c'est des essences différentes? La striure est différente du bois?
Ah oui, la structure du bois est différente, l'aspect est différent, l'odeur est différente, la flexibilité est différente. Enfin, on a une grande variété de bois et c'est super parce qu'on peut composer avec.
Et tu as du bois tendre, tu as du bois dur?
Oui. Alors sur une guitare, on va utiliser les caractéristiques spécifiques de chaque bois pour différents composants.
Tu parles de guitare parce que tu es devenu luthier après toutes ces années d'ébénisterie.
C'est
ça. Tu es devenu luthier. Pourquoi tu as changé alors? Pourquoi tu es devenu luthier?
Alors, je vais essayer d'être assez concis. Finalement, quand j'étais apprenti ébéniste, j'allais au lycée technique à Colmar pour la partie théorique. Et avec ma classe, j'ai visité la lutherie de Mirecourt. Donc, l'école de lutherie de Quatuor.
Ah oui, ok.
Et donc, quand j'ai vu les élèves qui travaillaient sur les violons, là, j'ai tout de suite eu le coup de foudre pour la lutherie. Sauf que moi, je n'avais pas les capacités de rentrer dans cette école parce qu'il fallait être musicien déjà. Il fallait apprendre à jouer d'un violon, avoir l'oreille musicale.
Et ça, tu ne l'as pas, l'oreille musicale?
Je ne l'avais pas.
Tu ne l'avais pas à cette période-là, ouais.
Surtout que dans ma famille, on disait toujours, chez nous, on n'est pas musicien, on chante tous faux. Donc, pour moi, c'était pas possible.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Et finalement, le déclenchement a été en 2003. C'est un ami qui m'a amené une guitare qui était tombée, la tête était cassée.
Donc l'assiette, c'est quoi l'assiette, une guitare?
La tête.
La tête.
Ouais. Oui, la tête. Donc, ça arrive souvent, hein. C'est une des réparations.
Quand
les
on
plus
les laisse tomber.
Voilà. Donc, j'ai réparé cette guitare. Et ça m'a donné envie d'apprendre à en jouer. Donc, mon ami m'a prêté cette guitare. J'ai commencé à apprendre à en jouer. Et au bout de 2 mois, j'essaie de placer mes doigts sur le manche, d'en sortir un son. Il y a un second déclic qui est apparu. J'ai réalisé que j'avais un instrument en bois.
Que tu as fait toi-même,
Enfin, ouais. Pas celui-là, mais que j'avais réparé. Et ça m'a semblé possible. Donc à partir de là, j'ai commencé à me renseigner comment était faite une guitare. J'ai trouvé
pareil, tu l'as décortiqué, tu l'as...
Non. Bah, un peu comme je faisais avec les jouets, finalement. Ouais. J'ai regardé dans une guitare avec un miroir.
Ah, à l'intérieur, comme un dentiste.
Voilà,
exactement. Comme le truc d'un dentiste.
Ouais. Et comme, bon, ça fait déjà 30 ans que je travaillais le bois. Hein,
ouais,
donc,
ouais.
J'avais pas besoin de démonter. Justement, simplement en regardant, j'arrivais à comprendre. Et j'ai réalisé une première guitare comme ça. Et puis, voilà, tout de suite, ça m'a passionné. J'ai continué. Et 6 ans après, je me suis mis à mon compte. Donc, le statut d'entrepreneur venait d'apparaître en 2009.
D'accord.
Donc, j'ai saisi l'occasion, je me suis mis à mon compte. Mais le but, c'était juste faire 2-3 guitares dans l'année.
Dans l'année, ah oui, d'accord.
Et pouvoir les vendre de manière officielle.
Mais comment tu trouves le bois, les bois nobles, tout comme ça? Parce que les guitares, c'est fait de quel bois? Par exemple, c'est pas fait avec du sapin, c'est pas fait avec un chêne.
Alors, y a 3 bois qui sont essentiellement dans la tradition de la guitare. C'est le palissandre. Donc ça, c'est un bois exotique, l'acajou aussi, et l'érable. C'est vraiment 3 bois qui ont vraiment des caractéristiques sonores très différentes, suivant le style de jeu qu'on veut jouer. Voilà, ça, c'est la base. Et après, il y a plein de bois, tous les bois fruitiers.
Le noyer,
j'utilise beaucoup le noyer, meurisier. Le chêne, on peut l'utiliser, mais ce n'est pas terrible.
Ah ouais.
Je ne l'ai jamais utilisé. Et voilà, il y a plein de bois, il y a plein de...
Et le palissandre, c'est quoi comme bois? C'est un bois exotique qui vient d'Afrique? Non, c'est
qui
quoi
vient... Alors, il vient essentiellement d'Inde, actuellement.
Ah, d'Inde, ok.
À l'origine, il vient du Brésil.
Du Brésil, ouais.
Il y a le palissandre de Rio, mais qui est interdit à la coupe depuis 92. D'accord.
C'est du bois avec lequel on faisait les tam-tams, les djembés, non? Ça n'a rien à voir?
Peut-être pas, mais on a fait beaucoup de meubles aussi.
De meubles avec le palissandre, oui.
Et voilà. Mais c'est un bois qui est très dense. Donc, ça donne un son très, très puissant.
Mais on va écouter un son puissant. Tu m'as parlé de Pierre Bensoussan.
Oui.
On va écouter un peu de sa musique. Un chant de nuit, tu vas voir, c'est quelque chose qui va te plaire. Quel joli son, hein, Guy. C'est beau, hein.
Superbe, je suis fan.
T'es fan de ce monsieur, de Pierre Bensoussan?
Oui, je l'ai déjà rencontré plusieurs fois.
En concert?
En concert, j'ai même été chez lui.
C'est vrai? Et il habite où? Il habite...
À Château-Thierry.
À Château-Thierry, parce qu'il a des origines lointaines, hein?
Oui, oui, oui. Mais non, c'est quelqu'un de fantastique. Même humainement, il est...
C'est quelqu'un de bien, quoi.
Oui, ouais.
On s'entend sa guitare. Alors, parle-moi un petit peu de cette guitare. Les cordes, c'est quoi? C'est du boyau? C'est du plastique? C'est du métal? C'est quoi?
Alors, fut une époque, les premières guitares, c'était du boyau. Les guitares d'époque Renaissance, c'était du boyau.
Du boyau naturel?
C'est ça.
C'est un peu comme sur ma raquette de tennis.
C'est du boyau de chat, hein.
De chat, d'accord.
Oui, oui.
Ouais, qu'on fait sécher.
C'est ça.
Et qu'on tournicote comme ça pour...
Ouais. Et après, en 1800 et quelques, il y a 2 guitares qui se sont développées parce que comme les guitares ont commencé à être utilisées en concert avec d'autres instruments, la guitare de Renaissance n'était pas assez puissante.
Ah, oui.
Et donc en Espagne, ils ont commencé à créer les guitares classiques qu'on connaît maintenant. Et aux États-Unis, il y a Martin qui a commencé à créer la guitare folk comme on la connaît maintenant aussi. Donc la guitare folk a des cordes en acier.
En acier, ouais.
Alors que la guitare classique a des cordes en nylon.
En nylon, ouais. C'est toujours en classe. Ce qu'on a écouté, là, de Pierre, ça, c'est du nylon.
Non, ça, c'est de la corde d'acier.
C'est de l'acier, pardon.
C'est une guitare folk. Oui.
Ah, d'accord.
Voilà.
Parce que, OK. Et alors, toi, par exemple, tu mets aussi ces cordes, tu mets ça sur une guitare avant de la vendre, tu parles avec ton client pour savoir s'il veut plutôt quoi comme cordes.
Oui, alors, moi, j'ai un jeu de cordes qui me convient bien. Ouais. Parce que finalement, il y a des cordes qui vont bien, suivant la marque et le modèle, sur des guitares, et d'autres qui ne vont pas. Et finalement, on a beau construire la plus belle guitare en mettant tout dedans le mieux possible, la corde, c'est vraiment l'élément final.
Ah, c'est l'élément, un élément très important.
Très important. Ouais, ouais. Un jeu de cordes qui ne va pas sur une guitare, ça changer tout le son et tout rater.
D'ailleurs, Guy, tu me parles tout le temps de guitare. Là, tu en as emmené une dans un fourgon. Montre-moi voir cette guitare. Je crois que c'est ta centième que tu as fabriquée. D'ailleurs, il y a marqué 100 dessus. Waouh, elle est juste, elle brille de tout son éclat. Hein. Elle est magnifique. Et qu'est-ce que tu as comme bois là-dessus? Alors,
c'est une guitare que j'ai faite un peu pour célébrer mes 20 ans d'activité de luthier.
De luthier, ouais.
Voilà.
Guitare d'anniversaire, quoi.
Guitare d'anniversaire, 40 ans de métier aussi dans le bois,
wow.
En tout.
Ouais.
Voilà, donc c'était le moment de marquer le coup. Donc c'est une guitare, j'ai mis finalement toute mon expérience dedans.
Ah ouais.
Alors c'est une guitare que la table d'harmonie, elle est en séquoia.
C'est ce qu'on voit au premier, là. Séquoia, oui, c'est ce qu'on voit sur le
voit
devant.
Hein.
Sur la façade,
c'est
ouais.
C'est la partie la plus importante de la guitare. Ouais. Et le reste du corps, c'est un ébène léopard.
Mais fais voir, c'est encore plus joli derrière que devant, quoi. Fais voir, waouh, c'est joli comme tout.
Ah oui, derrière, finalement, c'est un bout de bois, c'est déjà un tableau, quoi.
C'est incrusté, là, c'est de la marqueterie, non?
J'ai fait des incrustations partielles, oui, de filets dedans.
Ah, c'est super joli, quoi. Ouais.
Et puis, j'y ai mis toutes les options que je propose.
Alors, tu dors avec, j'imagine, la nuit?
Non, même pas. Non. Mon épouse est plus chaude, quand même, plus douce.
Oh, mais je te le souhaite, vraiment. Hein. Alors, fais-moi un petit peu de son avec cette belle guitare, là. Parce que tu sais faire des accords quand même.
Ouais, alors je suis pas très doué, hein. Je suis pas musicien.
Mais c'est pas grave. Tu sais déjà, les fabriquer, c'est déjà pas mal.
Je vais faire quelques accords. Finalement, je suis resté débutant parce que comme la lutherie a pris le dessus sur l'apprentissage du jeu.
Ouais, ouais.
Bah, je suis resté débutant.
D'accord. Voilà. Mais alors, qu'est-ce que tu sais faire, par exemple? Sonne vraiment bien. Hein.
Voilà, ouais. Je m'arrête là.
et dis-moi, mais pourquoi tu as un regard au-dessus, la rosace, c'est quoi là? Pourquoi il y a un trou dans la guitare?
Alors ça, c'est une ouverture que je fais depuis 2007. C'est un retour de son.
C'est propre, c'est toi, il n'y a que toi qui fais ça ou y a
Non, je ne l'ai pas inventé.
Ah, tu ne l'as pas inventé.
Je l'ai vu chez un luthier de Colmar qui s'appelait, parce que malheureusement il est décédé il y a un an, Benoît Rémy.
Mm-hmm.
Et c'est un luthier qui faisait des guitares pour enfants. Et il faisait cette ouverture justement pour compenser le manque de volume des petits corps.
Ah, d'accord.
J'ai trouvé ça intéressant. Et j'ai commencé à le faire en 2007. Alors au début, je me suis fait incendier par la profession des luthiers, me disant que c'était une hérésie de faire ça.
Oh, c'est de la jalousie, non?
Ouais, un peu.
Ouais, quand même, j'imagine, ouais.
Mais voilà, maintenant, quelques années après, quand je fais des salons sur les 60 luthiers que je côtoie,
60 luthiers en Alsace, tu veux dire?
Non, sur les salons.
Tous les salons,
oui. Oui, quand je fais des salons, ouais, on a à peu près 40-60 luthiers à exposer.
Et ils sont où ces salons alors? Ils sont à quel endroit?
Alors, à l'époque, il y avait le salon de la guitare à Colmar, qui malheureusement n'existe plus. Autrement, j'ai sélectionné des salons un peu en France qui me conviennent bien, où je rencontre des belles personnes et des artistes. Alors, il y a le salon d'Issoudun. Donc ça, c'est en dessous de Bourges.
D'accord.
C'est vraiment un salon qui est fantastique, quoi. Il y a 3000 personnes qui passent ce week-end.
Ah ouais, quand même, ouais. Tous des amoureux de la guitare.
Que des amoureux de la guitare.
Et des gens célèbres, des musiciens célèbres que tu croises.
Ah oui, il y a des musiciens célèbres, oui. Oui, oui. Alors, c'est vrai que la guitare, c'est un peu une niche. Hein. C'est pas le grand public qui connaît. Mais bon, il y a des personnes, l'an dernier, il y a Francis Cabrel qui est venu faire un masterclass.
Ah ouais.
Oui, oui.
C'est un grand guitariste aussi, un auteur, un compositeur. Oui. On va écouter une petite musique de lui, si tu veux. On va demander à Thomas de mettre cette petite musique magnifique de Cabrel.
Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. ciel autour. Petite Marie, je t'attends transi sous une tuile. Ton toit, le vent de la nuit froide me renvoie la ballade que j'avais écrite pour toi. Petite furie, tu dis que la vie c'est une bague à chaque doigt au soleil de Floride. Moi mes poches sont vides et mes yeux pleurent de froid. Je viens du ciel et les étoiles.
Mais quelle belle poésie, c'est énorme cette chanson.
Oui.
Les étoiles qui parlent de toi sur ce morceau de musique, sur ce morceau de bois, regarde ce qu'il a fait Cabrel. Et c'est extraordinaire.
Ouais, hein. C'est extraordinaire.
C'est quelque chose qui
oui.
se démodera jamais. Hein.
Non.
Quand les étoiles ne parlent que de toi, ça me parle. Moi, j'adore cette musique. Quoi.
Ouais, moi aussi. Ouais. Et oui, c'est drôle parce que les générations suivantes, je sais que mon fils, quand il parle de Francis Cabrel, c'est voilà, ils aiment toujours encore cette génération parce que c'est un vrai poète.
C'est un vrai poète. Et oui. Je crois que c'est quelque chose qu'il a dédié à son épouse.
Oui, tout à fait.
C'est sur son épouse, il a fait un truc extraordinaire. T'imagines parler à sa femme de cette manière-là, d'écrire cette poésie, c'est...
Ah, j'aimerais pouvoir le faire.
Moi aussi, j'aurais voulu le faire. Ouais. Alors, dis-moi, dans le salon, tu l'as rencontré, Cabrel. Comment il était à ton stand quand tu lui as montré tes guitares?
Ah, alors Francis, c'est vrai que j'ai rencontré à Issoudun, mais je le rencontre aussi à Stafford, donc dans son village.
Et Stafford, c'est là où il habite?
C'est là où il habite,
ah, ouais.
Oui.
Parce que là-bas, il y a un salon également ou...
Alors, il y a une rencontre qui se fait. Il y a plusieurs rencontres qui se font. Il y a Guitare en Alsace, par exemple. Là, ce week-end, je pars à Guitare en Montagne. Ça, c'est en Chartreuse. Et il y a les rencontres d'Astafort. Donc, ce n'est pas Francis qui organise ça. Hein. Mais c'est dans les locaux de l'église primaire où allait Francis Cabrel. Voilà.
Mais raconte-moi, il est comment, ce monsieur? C'est ça que j'ai envie de savoir.
Ah, il est... Mais il est comme ses chansons. C'est un monsieur très timide.
Ah bon?
Oui,
ouais, timide.
Qui n'aime pas trop le showbiz. Hein. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on ne le voit pas trop à la télé. Très discret. La première fois que je l'ai rencontré, je suis allé le chercher. Parce que j'avais mon stand avec mes guitares. Il était à 2 mètres de moi. Il n'a pas regardé mes guitares. Il discutait avec des personnes sur place. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, ça y est, il va partir. J'entendais la conversation. Donc, j'ai couru après.
Ouais.
Je suis allé le chercher.
Ah, il faut avoir de l'audace, du courage.
Ouais, ouais. Voilà. Je me suis présenté, je lui ai montré mes guitares, du coup il les a regardées. Et voilà, il m'a dit, c'est de la belle loterie.
Ah, il t'a mis avec son accent. Ouais,
ouais. Avec son accent. Et voilà, et puis en tout, je l'ai rencontré 5 fois maintenant. Et ouais, c'est vraiment quelqu'un de charmant.
Il t'a jamais acheté de guitare?
Non, parce qu'il a, il a 2 luthiers qui travaillent pour lui.
Ah, d'accord. Ouais.
Il y a...
Tu lui font ses propres guitares, tu veux dire?
Oui, c'est ça.
Ah, oui,
oui.
Parce qu'il est aussi collectionneur, non? On collectionne les guitares.
Oui, il en a plusieurs. Après, ça ne veut pas dire qu'un jour, il ne va peut-être pas m'acheter une guitare. Hein.
Ah,
ça,
oui, c'est possible. Ouais.
Voilà. D'ailleurs.
Et qu'est-ce qu'il a dit de la sonorité quand il l'avait en main? Il a dit quelque chose de particulier?
Ah, ben, il m'a dit que c'était des bonnes guitares.
C'était
des
bonnes guitares, oui, oui. C'est bien.
Ouais. Mais après, c'est vrai qu'il a, un luthier actuellement qui s'appelle Julien Régnier. Qui habite à une demi-heure de lui, qui lui fait ses réglages avant les tournées, voilà, donc il travaille avec lui.
Quand on s'appelle Francis Cabrel, il faut tout le temps aller voir un luthier pour régler les guitares, les refaire ou les réparer.
Bah, avant chaque tournée, oui.
Un luthier, c'est une sorte de garagiste, quoi,
qui
ouvre le capot et qui regarde à l'intérieur.
C'est ça, hein, on est un peu le docteur de la guitare.
Ah, le docteur de la guitare, ouais. C'est joli, ouais.
Oui, il y a le côté fabrication, où moi je fais vraiment des guitares sur mesure, c'est ce qui me plaît le plus. Et puis ensuite, il y a le côté réparation, entretien, des fois même montage de cordes, hein, tout simplement.
Ah oui, ok. Et quel est le guitariste avec qui tu travailles en Alsace, quelqu'un de connu? Je crois que c'est Distel, hein?
Oui, Jean-Paul Distel.
Jean-Paul Distel, voilà. Qui m'a d'ailleurs parlé de toi, c'est pour ça que je t'invite à la radio.
Oui,
là.
Oui.
C'est, la radio, c'est un peu la poussette, comme ça. Quelqu'un me propose, je t'invite, je t'ai appelé 3-4 fois, et aujourd'hui, t'es là, quoi. Et donc,
oui.
C'est lui, que pour lui, tu travailles pour lui, en fait.
Je travaille pour lui, oui. Et puis, dernièrement, il y a un ami commun qui lui a offert une de mes guitares.
Ah oui, il est venu avec, il a joué
c'est
avec.
Ça, oui.
Mais la Dopro, la guitare métallique, tu la répares aussi chez...
Oui, tout à fait.
Ah ouais.
Finalement, j'entretiens tout ce qui est instrument à cordes.
Ah ouais.
puisque, bon, étant donné que je suis ébéniste au départ, bah, le travail du bois, ça me convient. Et puis après, dès qu'il y a des cordes, ben, pareil, ouais. Ça...
Alors j'imagine un ébéniste chez lui, il y a plein de bois partout, tu répares tout, tu fais plein de meubles, tu as plein de placards partout, c'est comme ça chez toi ?
Il y en a de partout, hein. Surtout que bah, le bois, il faut le stocker 5 ans en avance, avant de le travailler.
Ah ouais, ouais.
Donc,
voilà, ah, mais pas le bois moment. Ikea, hein, je suis désolé. Hein.
Ah, non,
excuse-moi
non.
de parler d'Ikea, mais...
Non, non, ce sont des beaux bois.
Des beaux bois, ouais.
J'essaye d'avoir un peu toutes les essences pour pouvoir justement répondre aux demandes.
C'est un métier qui m'aurait bien convenu, ébéniste. C'est quelque chose qui m'aurait bien plu, travailler le bois. Mais bon, après, j'ai fait du journalisme, mais c'est un métier manuel qui m'aurait bien plu, quoi. Travailler, façonner le bois. Et l'odeur, on en a parlé tout à l'heure.
Oui,
l'odeur du bois, c'est extraordinaire.
Ah ben ça,
et quand tu te balades dans la forêt, comme tu me disais tout à l'heure, tu sens ces différentes odeurs de bois
Oui.
Tu leur parles à tes arbres?
Non,
pas vraiment.
Pas jusque-là.
Non, mais parce que c'est pas une histoire de dingo.
Moi,
je vois un arbre, je me mets devant, je le regarde, je lui parle, je l'enlace, je tiens l'écorce, j'essaie de comprendre. Je me dis, j'espère que les guillotineurs vont pas bientôt venir le couper, les bûcherons. Parce que moi, les bûcherons, c'est quelqu'un qui coupe l'arbre et qui...
Ah oui, oui.
Il
a mis 40 ans à pousser. Okay,
ouais. Un jour, un bûcheron m'a dit, tu sais, André, je coupe cet arbre parce qu'il a une belle vie à l'extérieur et quand il sera coupé, bah, il aura une autre vie à l'intérieur, on en fera des meubles, un lit. J'ai dit, ouais, mais si un jeune couple l'achète, il n'aura pas la paix, quoi, il ne sera pas tranquille, tu vois.
Il vaut mieux en faire une guitare.
Il vaut mieux en faire une guitare.
Il a une seconde vie en chantant.
Ouais, c'est vrai. Ouais, mais tu m'as dit, on ne peut pas faire de guitare avec tous les bois, quoi.
Non, pas
avec
que
un
bois.
Sapin, par exemple, non.
Non, le sapin, ça ne sonne pas.
Ça ne sonne pas, ouais.
Par contre, l'épicéa, oui, parce que les tables d'harmonie, on les fait essentiellement en épicéa.
Ah ouais. Et là, qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment? Tu es en train de travailler dans ton atelier, tu fais des guitares, tu répares des violons aussi?
Alors, j'ai déjà réparé des violons aussi. Actuellement, bon, j'ai un confrère qui s'est installé à Mittelbergheim.
Ah ouais.
Donc, quand maintenant on m'appelle pour un violon, je retransmets le travail à ce confrère.
Et un jeune luthier qui s'est installé?
Non, il n'est pas jeune. Mm-hmm. Il a à peu près mon âge, hein, donc
Mais tu es jeune, toi,
soixantaine.
Tu es jeune.
Oui. Mais voilà, finalement c'est un prof de violon qui s'est mis à son compte tant que luthier parce qu'il a fait une formation. Voilà, donc je transmets le travail parce que j'ai assez de travail pour fabriquer des guitares.
C'est encore un métier qui a de l'avenir, un métier de luthier, c'est quelque chose...
Oui, il y a beaucoup de jeunes qui sont attirés, qui s'installent. Donc c'est vraiment un métier en expansion.
Alors dis-moi, à part ta guitare que tu m'as emmenée aujourd'hui, tu en as d'autres chez toi? Tu les collectionnes?
Alors je ne les collectionne pas, mais j'en ai pratiquement une vingtaine.
Une vingtaine?
Qui me servent de modèle d'essai.
D'accord.
Et pour faire les salons aussi, pour pouvoir exposer. Puisque l'idéal, c'est qu'une personne puisse essayer l'instrument qu'elle va commander. Pour avoir un aperçu de la taille, de la forme, du son qu'elle recherche.
Parce que selon la grandeur de la personne, du musicien, il faut des guitares plus grandes, plus petites, plus ramassées. Ça existe ça ou pas?
Oui, ça existe. Même. Surtout que je fais aussi des modèles qui sont ergonomiques.
Ça veut dire quoi?
Alors, au niveau de l'épaisseur, la guitare, elle est plus fine sur le haut qu'en bas, donc elle est conique. Et ça donne un confort supplémentaire pour la tenue par rapport aux bras, aux épaules.
Ah oui.
Voilà, les personnes qui ont des problèmes de tendinite, comme moi, c'est pour ça que j'ai avancé ce concept.
Oui.
Ça soulage, ça évite d'avoir des tensions supplémentaires quand il y a l'instrument.
Bah dis donc Guy, on a appris plein de choses aujourd'hui. Je te remercie en tout cas d'être venu chez nous à la radio.
Bah merci à toi.
Et ça m'a fait vraiment plaisir de te rencontrer. On voulait le faire depuis longtemps. En tout cas, je te souhaite beaucoup de bonnes choses en cette année 2024. Beaucoup de projets, beaucoup de salons et vendre beaucoup de guitares. Et puis reste comme tu es, ne change pas. Merci d'être venu.
Merci André.
Voilà, c'est fini. On attend ressasser les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher petit.